Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous, nous vous en parlions déjà il y a quelques mois. Selon des statistiques de la Fondation Abbé Pierre, 11 millions de ménages en Europe sont à la rue ou hébergés et les chiffres n'ont malheureusement pas évolué depuis. En France, 458 personnes sont même mortes dans la rue en 2018 selon le collectif Les Morts dans la Rue. Des chiffres sans doute fortement sous-estimés. Le collectif créé en 2002 dénonce ces morts prématurées. Avec une armée de bénévoles, il tente de redonner du coup une identité aux anonymes, d'organiser des funérailles dignes de ce nom pour ceux qui n'ont pas de famille. Frédéric Lebel a suivi une équipe de ses bénévoles dans les rues de Paris.
Les chiffres, pour une fois, en disent long. Quand on est sans domicile fixe, on meurt entre 46 et 50 ans, 30 ans plus tôt que la moyenne nationale. Le collectif a comptabilisé 511 morts en 2017, mais en croisant les données, il serait plutôt 3000. Cécile Roca travaille depuis plus de 15 ans auprès du collectif pour redonner de la dignité à ces morts oubliés.
Tout à fait au début, quand on a commencé, de voir la manière dont étaient considérées les personnes dans leur mort, montrer la manière dont ils étaient considérés leurs vivants. Il n'y avait qu'un numéro sur leur tombe, il n'y avait pas le droit de ritualiser. Et dans les centres d'hébergement, il n'y avait rien qu'un numéro en dessus du lit, pas le droit d'y durer, pas le droit d'y inviter ni d'y cuisiner. C'est-à-dire qu'on s'occupait de la matérialité de la mort et absolument pas de ce qui était humanisant dedans. Et de la même manière que pour les personnes bien vivantes, on s'occupait de la matérialité de leur hébergement, même si ce n'était pas suffisant, et absolument pas de tout ce qui était humanisant dans le fait d'habiter, d'accueillir, etc.
À une dizaine de stations de métro du collectif, ce sont deux bénévoles en service civique qui sont venus enquêter pour pouvoir dresser un portrait de Lati, 37 ans, SDF, mort le 1er janvier de cette année dans le quartier Jaurès, au nord de Paris.
Pour pouvoir mettre ma ficelle, va falloir que si on met sur l'énorme arbre.
Ariane et Alexandre accrochent autour d'un arbre une affichette et quelques fleurs, avec l'espoir de recueillir des témoignages des habitants d'une passante.
On s'est remis un peu quand même. Ils étaient 3-4 tout le temps ici, toujours, toujours. Et surtout, je les voyais, et à chaque fois, ils me disaient bonjour, vous êtes bien habillés, comment ça va? Enfin, c'était un peu autre chose que bon, bah, je suis là et j'embête tout le monde. Et ils allaient faire leurs courses, justement, au Franprix qui est juste là.
Dresser le portrait d'un homme dont on ne sait rien, c'est une première étape incontournable, et la réaction du quartier est parfois surprenante.
Parfois, on a les larmes aux yeux. Hein. La dernière fois, on avait rencontré un monsieur qui était révolté et qui était à peine aimable avec nous. Il était pas content, quoi. Mais son ton, finalement, on s'en fichait parce que ses mots étaient beaux et on sentait qu'il était révolté, mais c'était une façade. En fait, il avait le cœur brisé. Quand il est parti, on s'est tourné l'un vers l'autre avec les larmes aux yeux en disant « Merde, c'était émouvant !» Alors qu'il nous engueulait à moitié, quoi, mais il était sincère. Et c'est intéressant d'avoir des gens sincères.
Les détails biographiques leur échappent parfois, mais l'essentiel est ailleurs. Comme cette description recueillie quelques semaines auparavant pour un autre mort de la rue.
Un bon gars. Le monsieur qui a témoigné, qui nous a parlé de lui et qu'il connaissait depuis 15 ans, nous a beaucoup dit ça. Un bon gars. C'était un bon gars. Et je trouve que ça résume bien. Parce qu'un bon gars, finalement, c'est un bon gars, quoi.
Ce jour-là, les deux bénévoles se font renvoyer agressivement par plusieurs commerçants. Culpabilité et colère entremêlées. Et c'est finalement auprès des sans-abri que le dialogue s'engage.
Il ne parlait pas beaucoup. Il était renfermé sur lui-même en même temps. Moi, j'ai toujours vu comme ça.
Discret,
et je pense qu'il en avait gros sur le cœur. Il n'arrêtait pas de picoler de plus en plus, de plus en plus.
Et donc, vous savez, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il vient bien de Slovaquie?
Ouais.
Qu'il venait bien de Slovaquie?
Ouais. Un an et demi qu'il était dans le coin, mais il devait être en France depuis pas très longtemps.
Ouais, d'accord.
Parce que même bonjour, je pense qu'il a été en Angleterre.
Un fils, oui. Un fils et un deuxième qu'il a adopté.
On a appelé les pompiers, ils sont arrivés.
Ouais.
Et ils ont appelé le SAMU et ils sont restés une heure sur place. Ils sont partis, on a appris ça par le Carud, comme quoi il était décédé.
Vraiment, vraiment grand cœur qu'il avait.
Ouais.
Mais il y en a un autre qui est décédé il n'y a pas très longtemps, dans la nuit de son anniversaire en plus. Il faisait ses 38 ans, il était aussi alcoolique comme lui.
République, pas très loin de République.
Ouais, il s'appelait Timo.
Alors, justement, nous, on sais qu'il y a un monsieur de 38 ans qui est décédé près de République dans la nuit du...
Il était avec sa femme et d'autres amis fêtaient son anniversaire et ils l'ont retrouvé au petit matin, mort, recroquevillé sur lui-même. Moi, tout ce que j'ai comme idée, c'est le jour où je décède. Je suis à la rue aussi, je dors dans ma voiture. Le jour où je décède, voilà, on nous met dans une fosse sceptique. Enfin, moi, j'appelle ça une fosse sceptique, désolé. On nous enterre les uns sur les autres. Heureusement qu'il y a des gens comme vous, quoi. Ça, des fois, ça peut permettre de retrouver des familles qui peuvent enterrer leurs enfants décemment et tout. Moi, je sais que ce ne sera pas le cas, mais voilà. En tout cas, merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup, c'est vraiment gentil.
Grâce aux réseaux sociaux, Ariane a retrouvé quelques semaines plus tard la trace des frères et sœurs de Lati. Il sera donc sans doute enterré chez lui, en Slovaquie. Pour les autres, ceux pour lesquels on n'a retrouvé ni parents ni amis, c'est au cimetière de Thiès, en banlieue parisienne, que se termine le chemin. Ce matin-là, sous la neige, deux bénévoles du collectif sont venus rendre un dernier hommage à Johan sur ce terrain commun qu'on n'appelle plus le carré des indigents, mais les jardins de la fraternité.
Johan, le fil de votre vie s'est rompu le 28 décembre dernier à Paris, dans le 18e arrondissement. Un fil sans doute usé prématurément par la vie de sans-abri qui était alors la vôtre et la seule que nous vous connaissons.
Un caveau individuel en béton plutôt qu'un cercueil enseveli en pleine terre, c'est aussi ça le dernier hommage. Pendant les 5 prochaines années, le cercueil restera là avant d'être incinéré. Les proches pourront le réclamer, ils pourront aussi se renseigner, parler auprès du collectif dont la mission est de témoigner au nom des morts pour les vivants. Pour Cécile Roca, il y a encore beaucoup à faire.
Il y a eu une énorme amélioration de la qualité de beaucoup de centres d'hébergement qui permettent vraiment à des personnes de se reconstruire. Donc ça, c'est vraiment un progrès énorme qu'on a vu ces dernières années. Il y a encore des gros centres, les gymnases, etc. Mais il y a aussi des lieux de très grande qualité. Le drame, c'est qu'on continue à y rentrer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de prévention, et qu'on a du mal à en sortir dans la mesure où il n'y a pas de logements sociaux suffisants par la suite. Donc il y a quelque chose qui s'engorge, qui fait qu'il y a de plus en plus de personnes sans domicile, parce qu'il n'y a pas assez de sorties, il n'y a pas assez de prévention.
Depuis le début de l'année 2019, le collectif a déjà recensé 45 morts.
Longtemps épargné par la spéculation immobilière, Berlin faisait partie de ces rares métropoles européennes où on ne trouvait pas beaucoup de SDF. Mais avec l'explosion des prix immobiliers ces dernières années, leur nombre a fortement augmenté. Entre 5 000 et 10 000 personnes vivent aujourd'hui dans les rues de la capitale allemande, dont un tiers de ressortissants polonais, attirés par l'espoir de trouver un travail et de meilleures conditions de vie. Alerté par la situation, l'État polonais a réagi et il finance désormais un programme d'aide au retour. Julien Méchaussi.
L'ambassade polonaise estime leur nombre à 2 000. Il serait bien plus d'après les associations d'aide aux sans-domicile fixe. Après un appel à collaborer lancé par le Sénat berlinois, la Pologne a décidé de réagir et a mis à disposition au mois de septembre dernier une aide au retour. 70 000 euros ont ainsi été transférés à l'association polonaise Barca, chargée de coopérer avec les mairies d'arrondissement et des travailleurs sociaux berlinois. Un projet pilote qui a pour but de convaincre les citoyens polonais de rentrer au pays. Jour et nuit, plusieurs travailleurs sociaux arpentent les rues berlinoises et les points connus de rassemblement de la capitale allemande, la gare de Zoologischer Garten ou encore l'Alexanderplatz avec sa célèbre tour de la télévision. Une approche déjà mise en application dans d'autres villes européennes comme Londres ou Amsterdam dans le cadre de projets semblables. Une fois le contact établi, les employés de Barca ne se contentent cependant pas uniquement de convaincre leurs concitoyens d'un retour, ils leur proposent également une perspective dans l'un des 30 centres de Barca installés en Pologne. Pour la plupart des exploitations agricoles où les nouveaux arrivants trouvent non seulement un toit, mais aussi un petit travail et un quotidien structuré. Un argument primordial pour ces personnes qui ont pour la plupart eu de mauvaises expériences de prise en charge en Pologne et qui louent souvent le travail des associations berlinoises. Une 20aine de ressortissants polonais ont ainsi déjà profité de cette aide au retour. Un succès qui a convaincu les autorités polonaises de reconduire le projet pour une année.
En Hongrie, le pouvoir a trouvé sa solution en interdisant les SDF. Depuis octobre dernier, malgré les protestations venues du monde entier, une loi criminalise ceux qui vivent et dorment dans les lieux publics. 10 SDF ont ainsi déjà été envoyés devant les tribunaux. Une association, La Ville pour tous, les défend. Une autre, née il y a 5 ans, les juristes de la rue, s'installe, elle, tous les vendredis, en plein air, sur une place de Budapest, pour donner des conseils juridiques gratuits. Elle est une bouée de secours pour ceux qui ont des problèmes liés au logement, qui ne peuvent pas se payer d'avocat. Elle vient en aide aux plus démunis, aux sans-abri et à tous ceux qui sont dans la précarité. C'est le reportage de Florence Labruyère.
On est sur la place Blaha Lusa, un endroit populaire très fréquenté, en plein centre de Budapest. Beaucoup de gens pauvres prennent le bus ici, c'est un quartier défavorisé.
C'est sur cette place animée que les juristes de la rue donnent des conseils juridiques gratuits. Quand le temps est trop maussade, ils s'installent dans le passage souterrain du métro. Adam Tokac a 24 ans, il est en dernière année d'études de droit, il est l'un des bénévoles de l'association.
On apporte quelques chaises en plastique, une table, et il y a 2 juristes qui assurent la permanence. C'est plus facile pour les gens. Pas besoin de pousser une porte ou de prendre un rendez-vous. On veut être proche des gens.
Qu'ils soient étudiants ou avocats confirmés, les juristes de la rue conseillent tous ceux qui ont des problèmes liés au logement ou qui ont un litige avec la municipalité. C'est le cas de Gyula, un quadragénaire qui vit dans la banlieue de Budapest. Il a entendu parler des juristes de la rue sur Internet. Il est venu les consulter au sujet d'un petit jardin ouvrier qu'il loue à sa municipalité.
Ça fait 18 ans que je loue ce terrain à la municipalité. D'après la loi, j'ai un droit de préemption pour l'acheter. Mais la municipalité veut mettre la main dessus parce qu'il y a un projet de parc immobilier dans le coin. On est plusieurs à posséder ce genre de jardins ouvriers et la mairie veut passer au-dessus de nos droits.
Après son entretien avec une juriste, Gyula a retrouvé un peu d'optimisme.
Ils m'ont déjà donné quelques conseils, mais il faudrait qu'ils voient les documents. Je vais revenir, si je peux, la semaine prochaine, avec les papiers, et là, ils pourront m'aider.
L'association a surtout pour but de venir en aide aux plus démunis, les sans-abri, les sans-domicile fixe ou les personnes menacées d'expulsion. Adam Tokac.
Il y a pas mal de SDF qui viennent nous voir. L'autre jour, j'ai aidé une personne qui a été privée d'allocation de solidarité. C'est quelqu'un qui vit dans un foyer pour sans-abri. Je l'ai aidé à demander un autre type d'allocation sociale. Cela dit, la plupart de nos clients ne sont pas SDF. Ils sont juste dans une très grande précarité. Ils sont menacés d'expulsion, par exemple. L'autre jour, j'ai pu retarder la date de l'expulsion d'une personne. On a gagné ainsi 6 mois. Finalement, on est là pour empêcher que les gens soient jetés à la rue.
Comme tout citoyen hongrois, Attila Lakatos a une carte d'identité et une carte de résident sur laquelle figure son adresse, un foyer municipal pour sans domicile fixe. Attila habite dans ce foyer depuis sa sortie de l'orphelinat où il a passé son enfance. C'est à ce moment-là qu'il a connu celui qui allait devenir une sorte de parrain adoptif.
J'avais 12 ans quand l'un de mes professeurs à l'orphelinat m'a présenté à l'un de ses amis, un homme d'affaires. Il m'a emmené en excursion pendant les week-ends et les vacances.
Mais l'homme d'affaires s'est révélé être un escroc.
À ma majorité, l'État m'a donné 2 millions de forints pour m'aider à démarrer dans la vie. L'homme d'affaires, qui s'était occupé de moi, m'a demandé de lui prêter cette somme. J'ai accepté. Comme on se connaissait bien, on n'a pas signé de papier. Il n'a pas pu me rendre l'argent, mais à la place, il m'a donné un terrain de 8000 m² qu'il a fait mettre à mon nom. Plus tard, il a demandé un prêt à la banque à mon nom, car j'étais propriétaire du terrain qui servait de garantie. Mon mentor a promis de rembourser ce crédit à la banque, mais il a menti, il n'en a rien fait. Et maintenant, c'est à moi que la banque réclame 20 millions de forints.
Attila est étudiant et travaille à mi-temps dans un café pour complémenter la bourse qu'il reçoit de l'État. Mais avec ce maigre pécule, impossible de rembourser la banque. En désespoir de cause, il est venu consulter l'association de bénévoles.
J'ai expliqué mon problème aux juristes de la rue. Ils ont des contacts avec plusieurs cabinets juridiques. Ils vont essayer de trouver un avocat qui accepte de me défendre gratuitement.
Grâce à l'association, une avocate a déjà accepté de conseiller Attila. Depuis leur fondation, il y a 5 ans, les juristes de la rue traitent plus d'une centaine de dossiers par an. Grâce à eux, ceux qui vivent dans la grande précarité ont enfin accès à la justice.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Alors Vincent, déjà 10 ans qu'on vous entend chaque vendredi pour de nouvelles découvertes.
Là, on ne voit pas le temps passer.
Ouais, bon anniversaire.
Merci.
Alors la découverte du jour, eh bien, c'est une jeune artiste allemande.
Et oui, Yosine, Arabella Raor de son vrai nom, elle est originaire de Cologne et publie un premier album plutôt intrigant, une pop volontiers atmosphérique, nourrie d'inspiration électronique et classique. Il faut dire qu'elle a été à bonne école puisque sa mère coréenne et son père allemand sont tous les deux chanteurs lyriques. Mais c'est en autodidacte que Yosine se lance dans la musique alors qu'elle avait choisi une toute autre voie et suivait des études de médecine à Nice. In the Blank Space confirme aujourd'hui qu'elle a été bien inspirée de suivre ses intuitions et révèle une artiste aux multiples talents, une écriture délicate, un goût pour les arrangements sophistiqués et une voix intensément expressive.
On se quitte sur les notes rêveuses de Yosine avec One Support. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine à la réalisation et à la mise en onde, bien sûr, Françoise Grelot.